Georges Simenon.
Il n'y a jamais eu d'intimité entre ma mère et moi, jamais non plus de compréhension. Dès ma plus tendre enfance, je n'ai pas de souvenir d'avoir eu un contact véritable avec ma mère.
Mais que savait-elle de vous, de votre gloire, de votre fortune?
Ah ben, elle le savait parce que, par exemple, dans Pédigré, je l'ai appelée Élise. Et mon Dieu, je la jugeais assez sévèrement.
Ça peut pas faire de mal.
Eh bien, j'ai hésité pendant plus de 6 ans à éditer Pédigré. Je ne l'ai laissé éditer que parce que je me suis dit, mon Dieu, elle ne le lira probablement pas. Non seulement elle l'a lu, mais dès ce moment-là, elle s'est mise à signer, non pas Henriette, mais Élise. Et elle était toute fière qu'il y ait un livre écrit presque entièrement sur elle.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Mon cher Fellini, cela a été une grosse émotion pour moi de recevoir votre lettre. Tout ce que vous me dites me touche profondément, car malgré mes 73 ans et demi, je me considère encore et je me sens comme un gamin. Je voudrais que vous sentiez combien je me sens proche de vous, non seulement comme artiste, si je puis employer ce mot que je n'aime pas, mais comme homme et comme créateur. Tous les deux, nous sommes restés, et j'espère que nous resterons jusqu'au bout, de grands enfants, obéissant à des impulsions intérieures et souvent inexplicables, plutôt qu'à des règles qui n'ont pas plus de signification pour moi que pour vous. Elles en ont encore moins pour vous que pour moi, parce qu'il m'est resté de mon enfance, où j'étais un petit garçon bien gentil et bien obéissant, une sorte de timidité. Vous, vous êtes un fonceur. J'essaie depuis quelques années, c'est-à-dire depuis que je n'écris plus de romans, de le devenir. Mais il est possible que maintenant, comme les moutons enragés, j'exagère sans trouver le juste milieu. Je vous admire depuis vos tout premiers films. Mais ce que j'admire surtout, c'est que vous vous soyez dégagé de toutes les contraintes, de tous les tabous, de toutes les règles. J'espère qu'un jour nous nous rencontrerons à nouveau, cœur à cœur. Car je vous considère personnellement comme un frère. Et c'est fraternellement que je vous embrasse. Fidèlement vôtre, aussi bien sur le plan de l'affection que sur celui de votre œuvre. Celui qui s'adresse ainsi à Fellini le 18 août 1976, c'est son ami, son frère de cœur, Georges Simenon, qui vit alors retranché à Lausanne. 4 années auparavant, après un dernier maigret, il a brutalement décidé d'arrêter d'écrire des romans, faisant inscrire la mention « sans profession » sur sa carte d'identité. Simenon se consacre dès lors à ce qu'il appelle « mes dictées », un journal autobiographique de souvenirs et d'observations enregistrés sur le vif. Ces dictées paraîtront en 21 volumes. En 1981, il reviendra à l'écriture avec ses mémoires intimes à la suite du suicide de sa fille Marie-Jo. Mais c'est un texte court, « Lettre à ma mère », qui donne certainement le plus de clés pour comprendre le mystère, Simenon. Car ce petit garçon bien gentil et bien obéissant dont il parle à Fellini, c'est celui qu'il a essayé de se construire à l'ombre d'une mère peu aimante. Lui, Georges Simenon, adulé et traduit dans le monde entier, ami des plus grands, a en effet souffert tout au long de sa vie de n'être pas reconnu par une personne, une femme, sa mère. Henriette Simenon, née Henriette Brühl en 1880, petite fille élevée dans la pauvreté et la souffrance, est devenue une femme à la sensibilité fragile, au tempérament rugueux, qui, de ses 2 enfants, a toujours préféré Christian, le frère cadet de Georges.
Je suis vraiment confus de venir vous déranger à l'improviste, madame.
Monsieur,
mais
bien.
Nous avons tellement envie de faire la connaissance...
Je suis bien contente, merci.
...de la maman d'un homme célèbre, hein?
Je dois dire, monsieur, il avait une personnalité excessive. C'était même désagréable.
Ah,
vous savez, mes enfants, j'ai eu 2 fils, n'est-ce pas?
Mm-hmm.
L'autre était plus jeune, mais quelle douceur, quelle différence, faites pas pitié. Et Georges, n'est-ce pas, par exemple, je lui disais, ferme la porte, Georges, s'il vous plaît. Non, maman, je l'ai mis ouverte.
Après Lettre à mon juge la semaine dernière, quittons la fiction et retrouvons Simenon à l'autre bout de sa vie littéraire, du côté de la vie réelle, avec ses mots magnifiques adressés à sa mère. Dans sa lettre, apaisée par le temps, Simenon nous permet aussi de comprendre pourquoi il a si obstinément écrit sur ceux qu'il appelle les petites gens. Le texte est publié en novembre 1974 aux Presses de la Cité. Ouvrons les premières pages de Lettres à ma mère. Henriette Simenon est décédée en décembre 1970. Et c'est 3 ans plus tard, depuis sa petite maison avenue des Figuiers à Lausanne, que Simenon dicte cette lettre à son magnétophone. Dans un souffle acéré, il se remémore la semaine passée à son chevet et, par petites touches d'une extrême précision, dresse le portrait de sa mère et de leur relation. Retrouvons-le à l'hôpital de Bavière, où elle a été hospitalisée. Le docteur Orban, un ami d'enfance, a opéré Henriette et prévenu Simenon qu'elle allait s'éteindre doucement. Le gamin de Liège, orphelin de père depuis l'âge de 19 ans, revient ici sur les traces de son enfance difficile. Ma chère maman, voilà 3 ans et demi environ que tu es morte, à l'âge de 91 ans, et c'est seulement maintenant que peut-être je commence à te connaître. J'ai vécu mon enfance et mon adolescence dans la même maison que toi, avec toi, et quand je t'ai quittée pour gagner Paris vers l'âge de 19 ans, tu restais encore pour moi une étrangère. Depuis, j'ai fait quelques brefs voyages à Liège, mais le plus long a été le dernier, pendant lequel, une semaine durant, à l'hôpital de Bavière, où je servais jadis la messe, j'ai assisté jour par jour à ton agonie. Je t'ai observé pendant des heures, tu ne souffrais pas, tu ne craignais pas de quitter la vie. Parfois et même souvent, tu souriais, mais le mot « sourire » appliqué à toi a un sens un peu différent de son sens habituel. Tu nous regardais, nous qui allions te survivre et te suivre jusqu'au cimetière, et une expression ironique étirait parfois tes lèvres. On aurait dit que tu étais déjà dans un autre monde, ou plutôt que tu étais dans ton monde à toi, dans ton monde intérieur qui t'était familier. Car ce sourire-là, où il y avait aussi de la mélancolie, de la résignation, je l'ai connu dès mon enfance. Tu subissais la vie, tu ne la vivais pas. On aurait dit que tu attendais le moment où tu serais enfin étendu sur ton lit d'hôpital avant le grand repos. Cela a pris 8 jours environ, le séjour le plus long que j'ai fait à Liège depuis mon départ, et je ne pouvais pas m'empêcher, lorsque je quittais l'hôpital, de retrouver des joies de ma jeunesse, comme d'aller manger des moules avec des frites ou encore de l'anguille au vert. Est-il honteux de mêler des images gastronomiques à celles de ta chambre d'hôpital? Je ne crois pas. Tout cela se tient, tout se tient, un tout que j'essaie de démêler et que tu as peut-être compris avant moi quand tu me regardais avec un mélange d'indifférence et de tendresse. Nous ne nous sommes jamais aimés de ton vivant, tu le sais bien. Tous les deux, nous avons fait semblant. Aujourd'hui, je crois que chacun se faisait de l'autre une image inexacte. Et ce n'était pas l'image que tu te faisais de moi que je cherchais dans tes yeux, ni dans ton visage serein à l'hôpital. C'était ta véritable image que je commençais à percevoir. J'étais ému, anxieux. Je venais de parcourir aussi vite que possible les routes suisses, puis l'autoroute allemande, puis enfin un bout de route belge. J'ai reconnu tout de suite la grande porte vernie de l'hôpital de Bavière et trouvé ton pavillon, puis ta porte à laquelle j'ai frappé. On m'a répondu « Entrez ». J'ai eu un choc en voyant 4 ou 5 personnes au moins, plus une bonne sœur en noir, figée, qui semblait monter la garde comme une sentinelle dans ta petite chambre d'hôpital. Je me faufilais vers ton lit pour t'embrasser, quand tu m'as dit très simplement, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, « Pourquoi es-tu venu, Georges ?» Ce bout de phrase, plus tard, quand j'y ai réfléchi, car il m'est resté sur le cœur, m'a peut-être expliqué un peu de toi-même. Étais-tu étonné de me voir? T'imaginais-tu que je ne viendrais pas assister à ton agonie et à ton enterrement? Me croyais-tu indifférent, sinon hostile? Dans tes yeux, d'un gris délavé, était-ce une authentique surprise ou une de tes roueries? Je ne peux m'empêcher de penser que tu savais que je viendrais, que tu m'attendais et que tu avais craint que je ne vienne pas. Les gens autour de toi n'ont pas eu la discrétion de sortir. C'est moi qui ai dû les faire sortir en leur disant que je désirais être un moment seul avec ma mère. Nous sommes restés longtemps à nous regarder. Il n'y avait pas de tristesse sur ton visage. Il n'y avait aucun sentiment que je puisse définir sans risque de me tromper. Pourquoi es-tu venu, Georges? Ce petit bout de phrase est peut-être l'explication de toute ta vie. Lorsque nous sommes restés seuls, sauf pour la présence de la bonne sœur, tu n'as rien trouvé à me dire et je n'ai rien trouvé à te dire non plus. J'ai pris ta main amaigrie, posée sur le drap de lit. Elle était sans chaleur et comme sans vie. Aurais-tu été réellement déçu ou peiné si je n'étais pas venu? Je me le demande. Beaucoup d'interrogations hantent Georges Simenon au cours de cet affrontement quasi silencieux avec sa mère mourante. Simenon est né en 1903. Le noyau familial est composé de la mère, Henriette Simenon, employée d'un grand magasin de Liège, de Désiré Simenon, le père adoré, employé d'un bureau d'assurance. Dans la famille, on ne s'appelle pas papa, maman, mais père, mère et fils. Christian, le frère rival, est né 3 ans après Georges et mourra juste après la guerre à l'âge de 41 ans. Cela fait 50 ans que Simenon a quitté le foyer familial lorsqu'il se rend au chevet de sa mère. Pourtant, à presque 70 ans, l'écrivain a du mal à trouver les mots pour caractériser la cruauté de sa mère à son égard. J'ai beaucoup de souvenirs de mon enfance, plus que la plupart des gens. Autant ma mémoire est souvent défaillante en ce qui concerne des événements récents, autant elle est d'une exactitude photographique en ce qui concerne mes premières années. Je me demande si tu ne m'as jamais pris sur tes genoux. En tout cas, cela n'a pas laissé de traces, ce qui signifie que ce n'est pas arrivé souvent. En 50 ans, je n'ai jamais pu te convaincre que je travaillais et que je gagnais ma vie. Cette méfiance quasi innée que tu as eue à mon égard, aussi loin que je peux m'en souvenir, c'est-à-dire dès ma plus tendre enfance, je ne l'ai jamais comprise. Et elle a probablement contribué à dresser une sorte de barrière entre nous. On aurait dit que tu me soupçonnais toujours des pires méfaits. Et si mon frère Christian, plus jeune que moi de 3 ans, se mettait à pleurer, tu te tournais vers moi en demandant « Que lui as-tu encore fait ?» Je ne lui avais rien fait du tout. Il pleurait pour une raison étrangère à moi. Je me demande maintenant s'il n'était pas nécessaire qu'il y eût un vilain dans la famille. Et ce vilain, c'était moi. Bien plus tard, lors d'un de mes rares voyages à Liège, je me souviens qu'un jour tu m'as regardé longuement, avec une attention soutenue, et tu as prononcé cette phrase que je n'ai pas pu oublier. « Comme c'est dommage, Georges, que c'est Christian qui soit mort. » Cela ne voulait-il pas dire que, dans ton esprit, selon ton cœur, c'est moi qui aurais dû partir le premier? Tu as d'ailleurs ajouté « Il était si tendre, si affectueux. » Sans doute ne l'étais-je pas, mère. Ou évitais-je de le montrer? Je viens de dire mère au lieu de maman. Le père et la mère qu'on m'a appris à utiliser dès ma plus tendre enfance ne venaient probablement pas de toi et je ne peux t'en vouloir. Mon père était un tendre, mais comme tous les Simenons que j'ai connus, il ne s'est jamais montré expansif. Il y a un détail dont je me souviens et qui est peut-être significatif. Un jour, tu lui as dit dans un moment de découragement, « Quand je pense, Désiré, que tu ne m'as jamais dit « je t'aime ». Et mon père a répondu, les yeux humides, j'en suis persuadé, « Mais tu es là. Est-ce cela qui t'a endurci? Est-ce que prise entre les brûles dont tu sortais et les Simenons dans le clan desquels tu entrais, tu as ressenti comme une coupure et même un désarroi? Tout cela, mère, je vais essayer de le comprendre et de te le dire. »
Ma mère adorait mon frère. Alors, entre mon père et ma mère, lorsqu'ils parlaient de leurs enfants, mon père disait par exemple « ton fils » lorsqu'il parlait de Christian, c'était le prénom de mon frère, et ma mère disait « ton fils » quand elle parlait de moi à mon père.
Elle n'a jamais cru en vous, votre mère?
Elle n'a jamais cru en moi.
Et une fois célèbre, une fois glorieux, qu'est-ce qu'elle a pensé de son fils?
Elle n'a jamais eu confiance en moi.
Avec la sagesse de l'âge et la souffrance du deuil, Simenon, apaisé, veut donc essayer de percer le mystère de cette mère si longtemps étrangère. Alors qu'elle est étendue sur son lit d'hôpital sur lequel elle va s'éteindre, Georges lui rend visite 2 fois par jour. Plongé dans son regard, il voudrait remonter le fil de son enfance à elle, Henriette Brulle. Née à Liège en 1880, elle est la 13e de 13 enfants. Son père, ruiné au moment de sa naissance, va plonger dans l'alcoolisme et mourir alors qu'elle n'est encore qu'une petite fille. À l'affût de traces dans l'album de photos familiales, Simenon découvre peu à peu, lui qui a toujours idéalisé son père jusque-là, qu'il a finalement beaucoup hérité de sa mère. J'aurais voulu et je voudrais encore avoir de toi une photographie alors que tu étais une véritable enfant, alors que ton père venait de mourir et que tu vivais près de la rue Ferronstrée avec ta mère. Il n'en existe pas dans l'album de famille. Il y a tout un pan de ton passé qui n'a pas laissé de traces et c'est justement celui qui me passionne. Déjà, j'ai tout lieu de le supposer, tu étais une petite fille aux nerfs exacerbés, à la sensibilité poussée à l'extrême, mais qui, par je ne sais quel miracle, conservait son équilibre et sa volonté. Deux de tes sœurs, au moins, étaient aussi nerveuses que toi. Nerveuses et impressionnables à l'excès, ce qui ne veut pas dire déséquilibrées, bien que l'une soit morte dans ce qu'on appelait un asile d'aliénés, et l'autre vers la quarantaine d'avoir trop bu. Je dirais plutôt que tu étais anormalement sensible, et je ne suis pas le seul à avoir plus ou moins hérité de cette caractéristique. Enfant et jeune homme, j'étais fréquemment somnambule. Il vous est arrivé avec père de me rattraper en chemise de nuit depuis loup blanc au coin de la rue. J'ai encore des crises de somnambulisme à mon âge, ce qui est très rare. Deux de mes fils au moins sont somnambules, alors qu'ils n'ont pas été conçus par la même mère. Enfin, mon petit-fils est somnambule aussi. Est-ce de toi que cela vient ? C'est probable, car mon père était un homme calme, que je n'ai jamais vu nerveux, et qui n'a jamais perdu le contrôle de lui-même. C'est de la petite fille de la rue Ferronstré que je tiens, et c'est bien pourquoi mes yeux interrogent si intensément. Pendant toutes ces heures que je passais au pied de ton lit, j'essayais de te connaître, d'imaginer la petite Henriette Brûle que tu avais été, car on ne connaît réellement quelqu'un que si on a connu son enfance. De la tienne, je ne sais que des bribes qui tiennent peut-être autant de la légende que de la réalité, car tu en parlais aussi rarement que possible, et au temps de ma jeunesse, on ne se permettait pas d'interroger ses parents sur leur passé. Il y a de grands vides dans ton histoire telle qu'elle m'a été racontée. Je connais la rue Ferronstré et les petites rues qui s'y déversent. Je sais que c'est dans une de ces petites rues-là que tu as vécu avec ta mère. Je sais aussi que tu ne parlais pas le français, mais seulement un flamand mêlé d'allemand qui faisait rire de toi dans les magasins où on t'envoyait faire des menus achats. Ton père, lui aussi, est pour moi un être de légende. J'ai une photographie de lui. C'est un homme au visage énergique, aux yeux durs. Il était allemand, né près de la frontière hollandaise, et c'est une Hollandaise qu'il avait épousée. Comment, pourquoi était-il venu en Belgique ? Pourquoi, vers l'âge de 50 ans, s'était-il mis à boire démesurément, je l'ignore. Tu as à peine connu ton père, puisqu'il est mort quand tu avais 5 ans. As-tu connu ta mère beaucoup plus longtemps ? J'ignore quand elle est morte. J'ignore aussi quel âge tu avais et quels troubles cela a pu provoquer dans ta vie. Vois-tu, c'est tout cela que j'aurais voulu savoir, car cela m'aurait aidé à connaître aussi la mère que tu es devenue. J'ai une photographie de ta mère, une femme altière, aux traits réguliers, mais aussi durs que ceux de son mari, et qui regarde devant elle avec l'air de défier le monde. C'est cette femme-là qui, lorsqu'on frappait à la porte de l'appartement, mettait vite des casseroles sur le feu afin de donner aux gens l'impression qu'elle préparait un copieux repas. Tu en as gardé quelque chose. Quelque chose est le contraire. Toi aussi, mère, tu étais orgueilleuse, mais si je puis dire, tu avais l'orgueil de ton humilité. Tu étais fière d'être pauvre ou de ne rien demander à personne. Tu te faisais plus pauvre que tu n'étais, comme si c'était une vertu. Et à 71 ans, je commence à me demander si ce n'était pas vrai. J'étais souvent entendu prononcer « Vois-tu, nous vivons avec le strict nécessaire ». Ces mots « strict nécessaire » m'ont hanté lorsque j'étais tout enfant. Je l'ai considéré comme une insulte à mon père, car si mon père t'avait épousé et avait fondé une famille, c'est qu'il était capable de prendre ses responsabilités. Mais tu étais une brûle, et les brûles n'ont jamais accepté d'être de condition moyenne, à plus forte raison d'être pauvre.
Vous avez souffert dans votre enfance de ce manque d'argent, de cette espèce d'angoisse chronique qu'elle avait? Ça se communiquait un peu aux enfants?
Jamais le manque d'argent. Jamais le fait que, mon Dieu, on ne puisse pas s'offrir certains plats, certains dîners, certaines satisfactions que donne l'argent, mais uniquement la laideur que peut donner le manque d'argent. C'est-à-dire que malheureusement, j'ai vécu dans les meubles les plus laids du monde, et bien ce qui me faisait souffrir le plus, c'était la laideur de mes vêtements. Des vêtements de mon père, des cravates de mon père, de mes souliers, de tout ce que je portais, de tout ce qui m'entourait. Et ça, vraiment, j'en ai souffert.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Quelque chose d'une amère de... Elle a T'es les yeux qui tuent, mais j'aime ses mains sur mon corps. J'aime l'odeur au-dessus de ses bras, et je suis comme ça. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. L'amour, je trouve ça toujours dans les yeux de ma mère. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière.
L'œuvre de Simenon qui en a fait des motifs de sa légende personnelle et littéraire. Poursuivons maintenant avec une anecdote sur le rapport de la mère à l'argent qui va nous aider à trouver l'âme de la vraie Henriette. C'est le but que s'est fixé l'écrivain. Et tandis qu'il s'en approche, la tension et la colère vont peu à peu laisser place à une certaine tendresse. Simenon, parti vivre au Canada puis aux États-Unis après la guerre, s'est installé en juillet 1950 à Lakeville, dans le Connecticut, avec sa deuxième femme, pudiquement nommée D. Il invite sa mère à venir passer du temps chez eux. 8 chambres à coucher, 6 salles de bain. C'est dans une immense propriété que la petite fille de la rue Ferronstré va débarquer. Je craignais un peu ta réaction, celle que tu avais chaque fois que tu découvrais chez moi ou dans mon entourage un luxe quelconque. Je suis allé te chercher avec ma voiture à l'aéroport international. J'ai eu la stupeur de te voir vêtue comme une pauvresse, alors que je savais pertinemment qu'une de nos parentes, qui possédait plusieurs maisons de couture, t'avait constitué une assez importante garde-robe. Une fois à la maison, je t'ai demandé si tu avais d'autres vêtements à te mettre et tu m'as répondu que non, comme par défi. Par défi, mais un défi que je comprends maintenant et que je suis tenté d'approuver. La petite dernière de la rue Ferronstré, la vendeuse du grand magasin L'Innovation que ses frères devenus riches n'avaient jamais aidé, se révoltait instinctivement devant tout ce qui était coûteux et dire que je vis avec le strict nécessaire. Cela se tient. Je t'ai conduite à New York et je t'ai acheté plusieurs robes. Et ici se place une petite histoire tragicomique, plus tragique au fond que comique. Ma seconde femme, D, a toujours eu la manie de fouiller dans les tiroirs et les affaires des autres. Elle a découvert que tu n'avais qu'un vieux corset tout râpé, tout déformé. Elle est allée t'en acheter un autre, et sans t'en parler, elle a jeté le tien à la poubelle. Le lendemain matin, elle a été fort surprise de s'apercevoir que le corset n'y était plus. Tu avais dû te lever pendant la nuit, parcourir des couloirs assez compliqués, ouvrir la porte, Dieu sait comment, et telle une souris, longer les murs jusqu'à ce que tu trouves les poubelles. Tu n'as rien dit. Personne n'a rien dit. Le même soir, D, vraiment obstiné, reportait le corset dans la poubelle, et cette fois encore, tu allais le rechercher. Cela devenait une bataille de femmes, un combat entre deux volontés. D'un côté, D, orgueilleuse, agressive, impitoyable, et de l'autre, le petit bout de femme, venue de Liège, avec ce qu'elle avait de plus vieux, de plus râpé sur le corps. Comme pour proclamer, vous m'avez invité, vous avez insisté pour que je vienne, eh bien il faudra me prendre comme je suis, car je ne me laisse pas impressionner par vos grandes manières. As-tu repensé à tout ça, mère ? Moi, je l'ai fait, et à beaucoup d'autres choses encore, que j'essaierai de redire et qui, pendant des années, restent enfouies au fond de la mémoire. Face à face, dans une petite chambre d'hôpital, sachant que l'autre n'a plus que quelques jours à vivre, on est tenté de s'interroger. Et alors on le fait sincèrement, sans aucun faux fuyant. Entre nous, il y a tout ce temps écoulé. T'a-t-il marqué ? As-tu gardé le souvenir des heures et des jours ? À voir ton visage, tu sembles plutôt délivré de voir la fin approcher. Toute ta vie, tu as trottiné comme une petite souris. Je t'ai rarement vue assise. Et voilà maintenant que, je dirais bien pour la première fois, je te vois couchée. Je me demande, en observant ton visage qui a si peu changé, tes yeux clairs, d'un bleu gris, restés très vifs, si ton dernier soupir ne sera pas un soupir de soulagement.
Quelle est, ou quelles sont les qualités qui la résument le mieux ?
Une volonté farouche, mais une volonté extraordinaire. À laquelle, mais pas une volonté dure, pas une volonté en force. Ma mère était toute petite, toute mince. Elle était plutôt frêle. Et à côté de cela, elle avait une force et une force de caractère, ne se laissant démonter par rien, allant son petit bonhomme de chemin, coûte que coûte.
Dans ce temps silencieux, l'écrivain observateur qui est devenu Simenon scrute le visage de sa mère. Et sans rancune, il se souvient des crises de larmes d'Henriette et de son caractère excessif lorsqu'il était enfant, puis de sa lucidité et de son obstination silencieuse. Il se souvient des rues de son enfance et de certains flous aussi, comme le remariage d'Henriette avec Monsieur André, chef de train, avec qui elle vivra plusieurs années dans une drôle d'entente haineuse. Tenant cependant à conserver le nom de son premier mari, mort fin 1921, elle devient Madame André Simenon. Georges, pour sa part, n'a rencontré qu'une seule fois cet homme qu'elle nomme mystérieusement le père André. Nous sommes donc toujours à Liège, dans la chambre d'hôpital de sa mère, et le temps s'écoule étrangement pour Simenon durant cette semaine d'agonie. Il se passe un curieux phénomène. D'habitude, je suis très sensible au temps qu'il fait, à un trottoir éclairé par le soleil, ou à un ciel sombre où passent de gros nuages, à la bise, à la chaleur d'un souffle d'air. Or, du temps que j'ai passé à Liège, je ne saurais dire si c'était 6 jours, 8 jours ou 10, sinon davantage. Il ne me reste rien qu'une sorte de grisaille unie, comme un dessin au crayon sur du papier blanc. Un matin que nous étions seuls, sauf l'inévitable religieuse, tu m'as demandé « Que vas-tu faire de la maison ?» C'était la première fois depuis que je me trouvais dans cette chambre où tu agonisais lentement que tu faisais une allusion indirecte à la mort. Quand j'étais enfant, puis adolescent, tu en parlais souvent avec, oserais-je dire, une certaine satisfaction. « Quand je serai morte, mes enfants ?» Ou bien « Tu comprendras quand je ne serai plus là. » Mais cela, c'était il y a plus de 50 ans. Maintenant que la mort est pour ainsi dire déjà arrodée dans ta chambre, tu n'en dis pas un mot. Tu ne parais pas avoir peur. Je suppose que tu la regardes en face et que même, parfois, tu t'impatientes en trouvant qu'elle est bien lente à venir. Qu'est-ce que tu feras de la maison ? Je t'ai répondu ce que je t'avais dit autrefois. Je la laisserai entièrement à mon neveu. C'est une promesse que j'ai faite il y a longtemps à mon frère. Avec les meubles, le linge et tout ce qu'elle contient ? Tout. La maison. Ta maison. Vraiment la tienne. Des briques. Des fenêtres, des planchers qui n'appartenaient qu'à toi. Tu avais plus de 80 ans quand ma cousine Maria, ta dernière parente, qui avait à peu près le même âge que toi, m'a écrit qu'elle t'avait trouvé au haut d'une échelle, occupée à repeindre les murs du corridor. Ta maison n'était pas une maison comme une autre, c'était un symbole. Le symbole de la réussite finale de la petite fille de la rue Féronstrée, le symbole aussi de l'aboutissement de ta volonté. Avant que je ne m'envole, j'ai vécu avec toi dans 2 ou 3 maisons et toutes se trouvaient comme ta maison dans le quartier d'Outremeuse, à l'ombre du clocher de Saint-Nicolas. Le quartier d'Outremeuse est habité par ce que j'appelle des petites gens, faute de pouvoir les définir autrement. y habitent de petits retraités, des employés, des contremaîtres, des veuves avec pension, les petites gens. Et aujourd'hui encore, je considère que j'en fais partie.
Je crois que je ne serai jamais d'une autre classe que celle dans laquelle je suis né. Et je continue à en avoir les réflexes, car on ne les perd jamais. Mais par petites gens, il faut encore entendre, il faut savoir ce que j'entends. Parce que, j'allais dire, n'est pas petites gens qui veut, n'est-ce pas? On peut être de classe moyenne, de classe petit bourgeois, etc. Mais les petites gens, pour moi, c'est d'autres choses. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont d'abord ceux qui croient à tout, qui croient à tout ce qu'on leur a appris. Et ce sont ceux qui passent leur vie à vouloir bien faire. Car vraiment, ces gens sont hantés du besoin de bien faire, d'être approuvés par les autres.
Ta maison était à quelques pas de celle que j'habitais avant de me rendre à Paris. Je n'y suis jamais resté plus d'une heure ou deux de passage. Et les dernières fois que je suis allé te voir, je me suis senti dérouté. J'avais toujours connu la même salle à manger, plus ou moins Henri II, avec des têtes de lion sculptées aux quatre coins de la table, les chaises au fond en faux cuir de Cordoue. Un beau jour, j'ai trouvé deux salles à manger, deux tables à peu près pareilles, deux buffets aux vitres colorées. Le plus étrange, je n'ose pas dire le plus amusant, c'est que tu ne t'y reconnaissais pas toi-même. Il y avait en effet dans ta maison le mobilier acheté par mon père et par toi lorsque vous vous êtes mariés, il y a si longtemps. Mais il y avait aussi le mobilier du père André. C'est ainsi que tu appelais l'homme avec lequel tu t'es remarié plus tard. Et tu te trompais. Tu commençais à mélanger les dates, y compris les époques, au point qu'il t'est arrivé de parler du père André comme de mon père. Tu as fini avec les années par confondre les deux hommes qui avaient partagé chacun une partie de ta vie. As-tu vraiment aimé mon père? Je me le demande aujourd'hui. Les projets que tu faisais depuis le début de ton mariage, ce n'étaient pas des projets pour vous deux, mais des projets pour toi. Tu pensais déjà à ta maison et tu mettais de l'argent de côté sans le lui dire. Une sorte de magot personnel, si je puis dire, qui dans mon esprit est tout à l'opposé de l'amour. Il est vrai que tu n'as pas aimé davantage le père André. Je me demande, soit dit en passant, pourquoi tu l'appelais le père André. Il n'était le père de personne. Il n'a jamais non plus appartenu à une confrérie religieuse quelconque. C'était pourtant le père André. Mon père à moi, c'était Désiré. Deux familles, en somme, se retrouvaient mélangées dans ta maison, deux mobiliers dans lesquels tu ne te retrouvais pas toi-même. Cela m'a toujours troublé. Je me demande même si ça ne me trouble pas encore. Tu vois, mère, que je n'ai rien à te reprocher et que je ne te reproche rien. Tu as suivi le cours de ta vie avec une fidélité rare, sinon rarissime, à ton objectif. Tu as réussi. C'est peut-être pourquoi dans ton lit d'hôpital, ton regard est si serein, pourquoi aussi il y passe parfois une étincelle d'ironie. Vulgairement, je dirais, tu les as tous eus.
My home has no door. My home has no roof. My home has no window. It ain't waterproof. My home has no handle. My home has no key. If you're here to rob me, there's nothing to steal.
Home is not a harbor.
Nous arrivons à présent à la fin de l'itinéraire intime de Georges Simenon auprès d'Henriette, sa mère. Une confession qui commençait, rappelez-vous, par ces mots « ma chère maman ». Au terme de ce parcours, il comprend enfin les raisons profondes du comportement de sa mère, celle qui venait de tout bas, celle qui a grandi dans la peur, pour qui chaque joie était arrachée à la force des poignets, et qui avait décidé, comme il le dit, avec son sourire un peu vague, de lutter. Voici donc la dernière partie de « Lettre à ma mère » de Georges Simenon. Ma chère petite maman, tu vois que je reprends presque les mêmes termes par lesquels j'ai commencé cette lettre, probablement parce que je suis aussi émue. Un soir, au moment où j'allais me mettre au lit et où j'étais dévêtue, j'ai reçu un coup de téléphone de l'hôpital m'annonçant que tu étais morte. Je m'attendais à ce que cela arrive d'une minute à l'autre. La réalité ne m'a pas moins été un choc violent. Je me suis rhabillée en hâte. Je me suis précipité vers l'hôpital, vers ta petite chambre à laquelle je m'étais habitué, en oubliant que c'était du provisoire. Je t'ai trouvé le visage serein, d'une sérénité qui n'existe pas dans la vie. Je t'ai baisé au front, comme j'avais baisé mon père, et je me suis assis à côté de toi. La bonne sœur était toujours là, aussi immobile que s'il ne s'était rien passé. Je lui ai demandé si tu avais souffert et elle m'a répondu que non. Malgré moi, j'ai continué à penser. Cette semaine que nous venions de passer ensemble, pour ainsi dire sans nous parler, me manquait. Il me semblait qu'elle ne s'était pas achevée, que le contact n'avait pas été complet. Or, je ne voulais pas te laisser partir sans t'avoir connue, sans t'avoir comprise. Tes yeux maintenant n'avaient plus d'expression, mais une fixité extraterrestre. Tes lèvres avaient pris une fois pour toutes un pli mystérieux que je n'arrivais pas à définir. Ironie, apaisement, que sais-je. J'aurais tendance à dire apaisement. On l'avait fait ta toilette, tu étais belle, tu étais royale, impériale sur ton petit lit, et nous n'étions autour de toi que des humains, avec leurs hésitations, leurs petits problèmes et leurs angoisses. Tu avais dépassé tout ça et tu nous dominais de ton immobilité figée. J'ai continué à penser, et j'ai compris que toute ta vie, tu as été bonne. Pas nécessairement pour les autres, mais bonne pour toi. Bonne au fond de toi-même. Tu avais lutté pour atteindre le but que la petite fille de 5 ans s'était fixé. Tu avais serré les dents. Mais tu avais besoin, tu as toujours eu besoin d'être bonne, de te sentir bonne. Et c'est pourquoi, mère, tu as passé ta vie à te sacrifier. Or, il fallait que ce soit de la bonté. Pas seulement de la bonté pour les autres. Tu n'attendais pas de remerciements ni de reconnaissance. Il fallait, c'était indispensable, que tu te sentes bonne. Et je crois, après 8 jours passés dans ta chambre d'agonie, ce que j'ai enfin découvert. Tu étais née comme ton père, comme la plupart de tes frères et sœurs, avec une tendance à une certaine morbidesse, on dirait aujourd'hui à la névrose. Comment pourrais-je t'en vouloir ? Je sais que pendant la guerre, tu cachais tes pièces d'or sous ton tas de charbon. On aurait pu croire que c'était pour toi, que c'était de l'avarice. Or, en même temps, tu réalisais au crochet de petits sacs pour chacun de mes enfants. C'était des petits sachets de pièces d'or avec sur chacun le nom d'un de mes enfants. Je t'envoyais de quoi vivre largement tous les mois depuis près de 50 ans. Le jour est venu où tu as pu venir me rendre tout cet argent. Ce geste qui d'un côté m'a fait très mal, mais qui d'un autre m'a forcé à t'admirer. Vois-tu, mère ? Tu es un des êtres les plus complexes que j'ai rencontrés. Souvent, en pensant à toi, j'évoquais le fiacre qui est venu chercher ta sœur pour l'emmener à l'asile. Entre vous deux, il n'y avait qu'un fil. Ce fil, c'était ta volonté féroce d'être bonne, pour toi et pour les autres, mais peut-être surtout pour toi. Georges Simenon.
Au fond, j'ai compris seulement en la voyant ensemble sur son lit de mort. Nous avons eu des regards qui se croisaient et qui étaient plus éloquents que toutes les phrases que nous aurions pu dire. Je crois que nous avons fini, je crois, par nous comprendre sans rien dire. Après 5 ou 6 jours, j'ai l'impression qu'il a lu dans mon regard plus d'affection qu'elle ne croyait qu'il en avait jamais eu, et aussi un désir de communiquer avec elle.
Maman, maman, tu n'es qu'un courant d'air, jamais dans ton cimetière. À quoi ça rime que je m'escrime à planter des pensées, à calfeutrer ta tombe. À peine j'ai le dos tourné, tu me files comme une ombre. Maman, maman, tu me fais du souci, je te préférerais en vie. Pour moi, tu es là, je te sens là, derrière la fenêtre, à m'observer. Pas d'angle mort, glisser mon corps sur le qui-vive, tes yeux me suivent. Changer de partenaire, ta place du mort me fait du tort. Comme tu lis dans mon jeu, je gaspille mes atouts, je me défausse comme je peux, je perds à tous les coups. Maman, maman, laisse-moi te regretter. Où dois-je me cacher pour te pleurer à volonté? Tu es là, je te sens là, derrière la fenêtre, à m'observer. Pas d'angle mort où glisser mon corps. Sur le qui-vive, tes yeux me suivent. Maman, maman, tu n'es qu'un courant d'air, jamais dans ton cimetière. À quoi ça rime?
Ainsi se referme la lettre à ma mère. Et pour conclure, je vous propose de retrouver Simenon quelques années plus tard, auprès de son frère cette fois, son frère de cœur, Fellini. Simenon et Fellini, c'est la rencontre de deux imaginations créatives et d'une entente presque secrète qui s'est tissée au fil de leurs échanges épistolaires. Leur correspondance de 20 ans, interrompue en 1989 par la mort de Simenon, est aujourd'hui éditée par les Cahiers du cinéma. L'écrivain y tient son rôle d'aîné, de sage, et s'amuse même à jouer le médecin, réconfortant auprès du réalisateur plus jeune de 17 ans, qui doute de ses forces créatrices. Ouvrons par exemple la lettre suivante, datée du 7 septembre 1977, où il est question justement de création et d'enfance. Je crois depuis toujours que la création est inconsciente. Ce qui la distingue des œuvres conçues par la seule intelligence et par l'habileté. C'est justement cela l'esprit créateur. Vous créez avec votre subconscient. Et lorsque, comme c'est le cas maintenant, vous vous sentez vide, c'est au contraire le moment où le vrai travail se fait au fond de vous-même. En réalité, mon cher Fellini, vous êtes comme une femme enceinte qui se demande si elle aura réellement un enfant. Vous êtes comme moi un instinctif et ce que vous avez enregistré involontairement dès votre enfance, ce que vous enregistrez encore inconsciemment aujourd'hui, vous le rendez avec une force qui fait de vos œuvres des œuvres universelles. Sur une moindre échelle, il en est de même pour moi. Nous sommes un peu comme des éponges qui aspirons la vie sans le savoir et qui la rendons ensuite transformée, sans connaître le travail d'alchimie qui s'est produit en nous. Mais je sais par expérience combien cette façon de créer comporte d'angoisse, de découragement et enfin de profonde satisfaction et de détente. Ce qui vous arrive m'est arrivé environ 230 fois et m'arrive encore dès que j'ai terminé un livre. À mesure que mon public s'élargissait, je me suis senti des devoirs envers lui et il me semblait à chaque fois que j'étais inférieur à ma tâche. Le roman terminé, commençait alors la période d'inquiétude que je vivais à peu près 6 fois par an. J'étais persuadé que je ne trouverais pas pour mon prochain roman un thème digne d'être écrit. À chaque fois, j'étais persuadé que j'étais vidé. Cette période désagréable durait 1 mois ou 2 jusqu'au jour où un nouveau thème commençait à m'habiter. Or, le romancier n'a besoin pour composer son œuvre que de papier blanc et d'une machine à écrire. Maurice Chevalier me disait au cours d'une carrière longue et réussie que chaque fois qu'il entrait en scène, il avait le trac au point d'en vomir. Il ajoutait « Il n'y a que les médiocres qui ne connaissent pas ce trac-là. Je suis sûr que vous ne tarderez pas à créer de nouveau. C'est votre vie. C'est votre destinée. J'allais dire, c'est votre devoir. » Au travail donc, sans inhibition. Je vous embrasse, en attendant d'entendre votre voix au téléphone. Georges Simenon.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission réalisée par Xavier Pestudia avec, à la technique, Pascal Bénard, a été préparée par Estelle Gap, Leila Kourousselikoua, Perrine Malinge et Claire Tesser. Bonne soirée et à la semaine prochaine.